C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, si ça continue, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Je vous vois derrière votre poste de radio, prêt à l'éteindre, en levant les yeux au ciel, en pensant « Allez, elle va encore nous parler de la fin du monde ». Pas tout à fait, mais de la vitesse à laquelle nous piétinons à coups de bateaux de pêche hyper perfectionnés, la biodiversité marine, ça oui. Parce que l'heure est grave. Les pêcheurs artisanaux ne s'en sortent plus, ni en Europe, ni au bord des côtes ouest africaines. Nous en parlerons tout à l'heure avec Frédéric Lomana, qui est directeur scientifique de l'association Bloom, qui se bat pour défendre la biodiversité marine, tout en préservant les emplois durables dans le secteur de la pêche. Mais pour que vous compreniez bien comment la mondialisation de la pêche ruine les territoires, les hommes et leurs traditions, nous vous proposons d'aller à l'île Dieu, 24 km², 5000 habitants au large de la côte ouest de la France. Alice Milot est allée à la rencontre des pêcheurs de l'île, enfin de ceux qu'il reste.
Ah. Vous sortez les caisses de merlu là, c'est ça?
Ouais.
À l'aide d'une grue en fait?
Le mât de charge, ça s'appelle.
Le mât de charge. Vous savez combien de kilos vous avez ramené de merlu là?
Là, on doit avoir un peu plus d'une tonne de merlu. Hein.
Une tonne, c'est ouais. Beaucoup quand même.
Oui, mais on aurait préféré mieux.
Vous venez de débarquer après plusieurs jours de mer, c'est ça?
Ah oui, 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 on a fait 12 jours de mer.
Vous étiez dans quel coin alors?
Oh, ben, on a fait du nord au sud. On était en face de. On a été jusqu'en Bretagne, on a été en face de Royan, on s'est pas mal baladé.
Ce bateau, il s'appelle Fille du Souhait.
Oui.
C'est ce qu'on appelle un filayeur.
Ouais.
Effectivement.
Ça veut dire quoi, filayeur?
On fait que le filet. On sort les filets par l'arrière, là-bas.
Par le cul du bateau.
Ouais. Et puis, on a plusieurs kilomètres. Puis après, on attend le lendemain pour les remonter avec la machine, là. Et on les remet, pareil, derrière, avec d'autres machines, pour recommencer la même chose le lendemain.
Mais vous, sur le bateau, c'est quoi votre job exactement?
Bon, on a tous le même boulot. Un coup que les filets, on remonte les filets. On a chacun notre rôle. Y en a un qui démaille, il y en a un qui vire, il y en a un qui est derrière à remettre les filets dans le parc. Il y en a un qui est triple, il y en a un qui lave. Et on se relaie, comme ça. Dans la journée, on se relaie.
Là, vous êtes encore avec votre tenue. Vous avez la salopette imperméable jaune.
Bah oui, parce qu'on est toujours dans l'eau. Alors, on est toujours trempé avec le poisson et tout. Quand il y a mauvais temps, on est quand même en mer. Hein. On n'est pas sur le plancher des vaches, comme on dit.
C'est un métier que vous aimez?
Oui. Oh ben moi, ça fait plus de 30 ans que je fais. Hein. Dans 5 ans, je suis en retraite, alors... J'ai fait assez longtemps. J'attends la fin, maintenant.
Éric Tarot, pêcheur et habitant de l'île Dieu.
En fait, là, on a quitté le port de l'île Dieu, qui est le port plutôt réservé, on va dire, aux touristes, celui où il y a les dizaines de bars, de terrasses, de restaurants, de commerces, pour être dans la partie plus industrielle, on va dire, de l'île.
Bah, plus de la pêche, oui. D'un côté, vous voyez, il y a les bateaux de pêche, quelques-uns sont rentrés. De l'autre côté, on a le port de plaisance. À l'origine, les pêcheurs en étaient beaucoup plus, donc les pêcheurs ont payé le port de plaisance. Et maintenant, le port de plaisance donne un coup de main aux pêcheurs, quoi. C'est plutôt l'inverse, parce qu'on n'est plus assez.
Alors là, on va prendre la passerelle. Donc là, on descend.
C'est par là.
Le Pluton.
Le Pluton, oui, c'est ça. Ouais.
Donc le Pluton, c'est typiquement un bateau de pêche côtier pour aller faire la pêche sur les côtes de l'île Dieu.
À la journée, oui. Autour de l'île, quoi. On part le matin vers 6h, et puis on rentre à 15-16h.
On peut escalader. Ouais. Hop. Je peux mettre le pied là.
Attention à ne pas tomber.
Donc en fait, il y a un grand pont et une toute petite cabine au milieu.
Ouais, et ouais, puis il y a un vivier. Là, il y a un vivier, c'est ce qui se fait plus dans les bateaux actuels.
C'est quoi un vivier?
Bah, c'est pour mettre l'eau vient dedans, c'est plein d'eau. L'eau vient par le dessous du bateau. Ça permet de mettre les crabes, les homards, les barres à vivre.
Vous voyez, c'est plein d'eau.
Et alors ce matin, vous n'êtes pas sorti?
Non, parce que c'est les grands coefficients. Donc quand il y a trop de coefficients de marée, il y a trop de courant. Donc les casiers, les filets, ils bougent au fond. Donc on pêche pas. Donc c'est pour ça que les bateaux sont pas là. Enfin, ils sont pas en mer, quoi. Aujourd'hui. C'est les grands coefficients pendant 3 jours, là.
Donc je suis pas venu au bon moment en fait.
Vous n'êtes pas venu au bon moment. Hier il y avait un peu de vent, donc hier on aurait peut-être pu aller en mer, mais hier il y avait du vent, donc c'était pas un temps pour quelqu'un qui n'est pas habitué en mer.
Pourquoi j'aurais été malade?
Ça se pourrait, ouais. Et puis après c'est la grande Marie.
Alors donc là c'est la cabine. La cabine du capitaine.
C'est pas moderne, hein. C'est vieux, hein. La cabine elle a 50 ans. Hein.
C'est étroit.
Ah ben oui, c'était à l'époque, voilà, hein. Quand ça a été fait en 70, c'était moderne. J'ai rajouté un peu d'électronique pour...
Et ça c'est la radio?
Ça c'est la radio pour parler aux autres bateaux. Ouais.
Vous les connaissez, eux?
Oui, c'est Maxi Plon et puis Listao.
En tout cas, faut pas dire des choses trop intimes à la radio, parce que du coup, tout le monde entend tout.
Oh, ça arrive, ouais. Des fois, on le fait exprès, mais... Il y a beaucoup de conneries, des fois.
Et donc ça, c'est un de vos bateaux, mais c'est pas le seul, parce que vous avez un autre bateau, mais qui, là, actuellement, est en mer.
Ah oui, j'ai un bateau de pêche au large, que j'avais depuis très longtemps. Donc j'ai laissé, comme je suis après de la retraite, j'ai laissé un jeune là, qui était avec moi depuis très longtemps. Je suis à la pêche côtière depuis 6 mois, quoi. Ah ben ça change de vie, parce qu'on est tous les soirs dans son lit, ça change. Autrement on partait 8-9 jours, donc c'est pour préparer la retraite, pour pas arrêter trop violemment.
Du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, voilà.
Quand vous partez pour faire la pêche à la journée, vous êtes tout seul sur ce bateau?
Tout seul, oui. On est bien tout seul, hein. Vous savez, quand on part, qu'il y a un beau lever de soleil le matin, là c'est agréable. Hein. Puis après quand on a été 30 ans avec 7 ou 8 gars à bord, ça change, hein.
Mais cette camaraderie-là, c'est quelque chose qui faisait partie aussi du plaisir du métier.
Oui, il faut être une bonne équipe, quoi. Ça fait plaisir de partir en mer. Voilà. Des fois, on dit, tiens, c'est samedi. Bon, chier. On resterait bien ce week-end, mais bon, voilà, quoi. C'est la période. Il va y avoir du poisson. Les gars ont des maisons à payer. On y va, quoi. Voilà, on dit, bah, les gars, ça nous fait chier, mais il faut qu'on aille. Donc voilà, on est parti. C'est comme ça, quoi. Tout le monde va dans le même sens, quoi. Le plus dur, vous savez, quand on a cette gars avec soi, voilà, quand on fait une bonne marée et que tout le monde est content, c'est ça le plaisir. Hein. On a donné une bonne paye aux gars, parce que si on pêche pas, les gars sont pas payés. Hein. Donc le plaisir, il est là. Le but, il est là. Si dès le début de les 10 jours de pêche, les 3 premiers jours, on a fait 3 belles journées, et puis que la marée, comme on dit, la marée est sauvée, c'est plus agréable que quand on traîne la patte toute la marée, puis qu'on arrive à sauver la marée le dernier jour.
Comment vous êtes entré en pêche?
J'ai toujours voulu être pêcheur. Mes parents, mon père voulait pas, mais mon père était pêcheur, mais il voulait pas que je sois pêcheur. Puis il disait que c'était trop dur, donc voilà.
Qu'est-ce qu'il aurait voulu que vous fassiez alors si vous n'étiez pas devenu pêcheur?
Il voulait que je fasse des études, des grandes études, parce qu'ils n'avaient pas pu en faire à l'époque, donc ils n'avaient pas le choix. Nous on avait le choix encore. Hein. Et vous savez, j'avais 7-8 ans, j'allais à la mer avec mon père, avec mes oncles, puis là, dès que j'ai pu, j'allais en mer, donc après on voit que ça. Hein. Puis ça a continué comme ça. Après j'ai acheté un bateau, j'avais 25 ans, le premier bateau, et puis de pêche au large, et puis je l'ai toujours depuis, quoi.
C'est la mer qui a dicté votre vie.
Voilà, c'est ça. Même les enfants sont nés. Enfin, il y en a un qui est né, j'étais pas là, les autres j'étais là. J'étais pas là pour la naissance.
Comment était rythmée votre année en fait?
Ben, c'était la période du temps. Du mois de mai au mois de fin mai à fin septembre. Là on faisait 3 semaines ou 4 semaines.
Et vous partiez où quand vous partiez au thon?
Aux Açores là-bas. On traversait, enfin on était dans le milieu de l'Atlantique là-bas. Au thon blanc, au Germont, quoi.
C'est une des spécialités de l'île Dieu.
C'est une spécialité. Ils ont interdit le métier en 2002, mais enfin la technique, mais ben, on l'a mal vécu parce qu'on a perdu la moitié des bateaux. Donc on a perdu la moitié des grands bateaux. Il y en a une partie qui a été vendue, l'autre partie a été à la casse.
Une fois que l'interdiction a été prononcée, c'est-à-dire que vous avez des copains qui ont cassé leurs bateaux.
Oui, il y a eu un plan de casse. Ils ont eu des aides pour casser les bateaux. Ouais. Donc voilà, ça s'est terminé par la moitié des bateaux. Maintenant on est 10, on était 27. Hein. Ben, parce qu'on faisait le filet maillant dérivant, on pêchait du thon blanc et les écolos nous accusaient de pêcher des dauphins. Ils ont réussi à faire interdire la pêche. Ça, ils disaient qu'on détruisait la mer.
Mais c'est vrai que vous abîmiez les fonds marins ou...
Non, on pêchait pas de dauphins. La première année, on en pêchait un peu plus. Mais on a réglé nos filets avec Ifremer pour pas pêcher de dauphins. On a compris le truc, après on n'en pêchait pas. Mais c'est une excuse. C'était plutôt le lobby. C'est les Espagnols qui poussaient les écologistes derrière. Parce qu'eux faisaient pas le filet maillant. Et eux pêchaient la ligne traînante. Alors le dilemme qu'on avait avec eux, c'est que nous on partait fin mai et on ramenait du thon avant eux sur le marché. Le thon blanc, le nôtre, était sur le marché avant le leur. Et ils voulaient pas. Donc c'était... D'ailleurs ça s'est terminé par une bataille navale. Et mauvais, c'est quand il y a eu les abordages avec les Espagnols, c'est clair.
C'est-à-dire?
Les Espagnols sont venus buter dans nos bateaux. Ils nous abordaient, quoi, comme des pirates. Ah bah oui, en 94.
En pleine mer?
En pleine mer, oui, en 94, oui. Pleine mer, ils ont abordé les bateaux. Ils ont quand même réussi à emmener un bateau en Espagne. Il a fallu évacuer le bateau. Ils ont pris le bateau en mer et ils l'ont emmené en Espagne, comme des pirates. Parce qu'il y a des gens qui se sont parmi. Hein. Il y a 4 ou 5 bateaux qui ont été démolis. Hein. Après, ils sont revenus à l'île Dieu, ils étaient tout cabossés. Les gens étaient traumatisés. Mon père en premier, d'ailleurs. puis tous les gens qui avaient 50 ans à l'époque, ils s'en sont parmi. Très mal.
Peligroso es andar por la calle, la calle del gato, del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, 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 lo ves o no lo ves, al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla, a la gente que pasa a distraer, el gato bandido con caña y anzuelo les pesca el sombrero, sombrero y el moño, ño, ño, lo ves.
Gisèle. Cathy. Erika. Où est-ce qu'on est en fait ici ?
Dans un magasin de filets de pêche. On monte les filets de pêche pour les marins. On est remailleuse. Voilà.
Donc votre outil de travail, c'est la machine à coudre.
La machine à coudre, oui. Oui, voilà.
Et le filet.
Et le filet. Et les, ouais, les filets, le cordage, tout.
Alors, vous dites un magasin, mais c'est rigolo parce qu'en fait, vous êtes au fond d'une maison, en fait. C'est
oui,
improbable.
Oui, oui, voilà. On est voilà, chez le patron, mais on appelle ça le magasin, ouais.
En fait, vous fabriquez les filets pour les bateaux de l'île ?
Non, pour un bateau de l'île, pour le petit Gaël. Les autres bateaux ont leur propre magasin aussi.
Chaque bateau a son magasin qui fabrique ses filets.
Voilà, c'est ça.
C'est pas... C'est pas compliqué, il faut pas mettre les doigts en dessous de l'aiguille.
Ça s'appelle remailleuse, votre métier ?
Ouais, ramandeuse normalement, parce qu'au début on réparait, donc c'était ramandeuse.
Et pourquoi maintenant on répare plus ?
Ben parce que ça se répare plus cette
parce
matière.
C'était en fil.
C'était en coton avant.
Ah
ouais.
Oui, d'accord. Non, ouais. Oui, le nylon ça se répare pas.
Non, non, non.
Alors vous êtes finalement les petites mains de la pêche ?
Voilà, si on n'est pas là, et ben les gars peuvent pas aller à la mer. Si on fait pas les filets... Les marins, ils restent à terre.
Et pourtant, ce n'est pas sur vous qui faites la lumière. Vous êtes,
non,
vous êtes caché dans un hangar.
Qui fait la lumière. On est caché et puis c'est vrai qu'on n'est pas en pleine lumière, non, c'est sûr.
Toutes les trois, vous êtes femmes de pêcheurs alors ?
Oui, toutes les trois. C'est en fin de compte rester souvent seule parce qu'ils sont souvent partis des fois pour 10 jours, 15 jours. Quand on faisait le temps, et au début, ils partaient pour un mois. Au début, c'était un peu dur, mais après, on s'y fait. Hein. Puis des fois, quand ils étaient là, au bout d'un moment, mais on trouvait dur aussi. On avait nos petites habitudes.
Vous étiez contente qu'ils repartent aussi.
Bah, oui, aussi.
Et puis quand les maris viennent, et ben, quand les enfants étaient petits, ben, ils venaient pour 2 ou 3 jours. Alors, ils laissaient un peu faire les enfants. Puis après, ben, fallait tout rattraper. Quoi.
Comment ça veut dire quoi, ils laissaient
ben,
faire ?
Ils laissaient faire, ils n'allaient pas pour 2 jours, ils n'allaient pas les gronder, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils laissaient un peu passer les caprices, puis après, ben, fallait tout rattraper.
Alors là, je suis sur mon vélo, puisque à l'Île-Dieu, quasiment tout se fait à vélo. Il y a quelques véhicules, mais pas énormément. Et donc là, je suis du côté de Cadouère, qui est donc un des quartiers de l'île qui est à l'ouest. Et donc, je suis en quête de la rue Carborny, puisque c'est là que vit Laurent Dupont, qui est un monsieur de plus de 90 ans, qui est un pêcheur à la retraite et un des plus vieux pêcheurs à la retraite de l'île. Donc je cherche sa maison. On m'a dit qu'il avait eu un accident il y a 2 ans, donc il pouvait très difficilement marcher aujourd'hui. Qu'il se déplace avec un déambulateur. Alors, donc ici, c'est la rue Carborny. Alors, numéro 76. Voilà, c'est là. Mais il n'est pas devant chez lui. Je vais garer le vélo. On m'a dit de rentrer. Bonjour.
Bonjour, ma belle.
Vous êtes Laurent, alors ?
Ah, c'est Laurent. Ah.
J'ai embarqué sur un bateau, le Tigre.
Le Tigre ?
Oui, un voilier. Et puis j'avais 13 ans, quoi. J'ai 95 ans, j'ai commencé à 13 ans. Il fallait gagner sa croûte. Avant, c'était le seul métier, presque. Il n'y a pas de boulot en ce temps-là. Il n'y avait, pas. Qu'est-ce qu'il y avait ? Quelques maçons, quelques charpentiers. Et c'était tout. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Les électriciens. Il n'y avait pas d'électricité.
C'est une photo qui date de quand, ça ?
Quand j'ai navigué, en 36.
36, d'accord.
En 36 que j'ai navigué. Alors, c'était sur ce voilier-là, sur ce bateau-là. Il n'y avait pas de moteur.
Tout à la voile.
Tout à la voile.
Ce qui est impressionnant sur cette photo, c'est que tous les bateaux sont des bateaux avec des mâts, des bateaux à voile.
Ah ben oui, et puis les perches pour le thon. Il y avait 115 bateaux là, dans le bois. Quand il n'y avait pas de vent, on ne pouvait pas marcher. Alors on ne pouvait pas pêcher. Et quand il y en avait trop aussi.
Et avec votre vie de pêcheur, vous avez réussi à fonder une famille.
Bien sûr, j'avais 8 enfants. Là.
Avec Paulette.
Avec Paulette.
De vos 8 enfants, il n'y en a pas un seul qui est devenu pêcheur.
Si.
Si.
Ah, il s'est perdu. Il a coulé, je sais mieux, avec le mauvais temps. Je ne peux pas en parler, je pleure, je trouve. C'est à chaque fois, si on parle de Jean-Paul, je pleure. Ça s'en va pas.
La douleur, vous voulez dire ?
Ça fait 20 ans.
Il avait quel âge, Jean-Paul ?
40 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il est parti en mer le matin, il faisait beau. Puis la tempête s'est levée. Le temps est venu en furie. Il avait des filets à la main. Il a voulu lever les derniers filets, puis le bateau a chaviré. Puis l'eau a engouffré partout, quoi. Il est décédé. Il y a bien d'autres, malheureusement.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Au sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Sereine, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Always lost in the l'absence qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide.
Éric Tarot, tout à l'heure, on a visité votre bateau de pêche côtière. Vous êtes pêcheur, mais vous êtes aussi bénévole pour la SNSM, les sauveteurs en mer de l'île-dieu, qui s'occupe aussi bien de secourir les bateaux de pêche que les bateaux de plaisance.
Là, on est sur le quai de la Criée, de l'autre côté du port de plaisance. Et là, il y a le bateau de la SNSM. C'est le bateau des sauveteurs en mer. Donc, c'est un canot tout en 18 mètres.
En fait, c'est des bateaux qui sont très reconnaissables parce que c'est des gros bateaux orange. Ouais.
Bonjour. Oui, orange et vert, toujours. C'est pour qu'ils paraissent de loin.
Il est à quai ?
Il est à quai, prêt à parier.
Et donc on va descendre ?
On va descendre dessus, oui.
Donc là, c'est marée basse, donc il faut prendre l'échelle.
Ouais, si vous n'avez pas la vertige, c'est bon.
Alors on y va. Face au mur.
Toujours. Voilà.
Et voilà.
Bon, vous avez les chaussures qu'il faut. Hein.
Ça oui, va. Ça va.
Il y a toujours une clé à bord.
Parce que donc vous êtes pêcheur, mais vous êtes aussi bénévole pour la SNSM, donc les sauveteurs en mer.
C'est ça, depuis 35 ans. J'ai commencé comme plus jeune matelot à bord et maintenant je suis un des patrons de la Belette.
C'est un bateau qui a une forte puissance, parce qu'il faut pouvoir aller vite.
Il faut pouvoir aller vite, ouais. Des fois on dit putain on va encore passer vite, mais bon, des fois vous savez quand on entend quelqu'un, j'ai une voie d'eau, j'ai trois enfants avec moi, ou un voilier par exemple, ils sont en panique, on est à fond, mais voilà, on a toujours l'impression de ne pas aller assez vite. Quoi.
Il arrive souvent que les pêcheurs de l'île soient en détresse ?
Non, Dieu merci non, mais ça arrive.
Est-ce que vous avez le souvenir dans votre carrière de sauveteur, d'un sauvetage qui vous a marqué ?
Ah ben oui, j'ai perdu un copain en 2005, mais nous on l'a sauvé avec, enfin on a sauvé une partie de son équipage avec mon bateau de pêche, on était en mer d'un côté. On était en mer, il faisait mauvais temps, mais on a ramassé nos filets, et maintenant on dit maintenant on va se mettre à l'abri, et à terre quoi. Donc on a fait route pendant 4 heures comme ça, à 2 km l'un de l'autre quoi. Il faisait mauvais temps, mais bon, puis il a pris une lame quoi.
C'est quoi une lame ?
Ben, un paquet de mer, une déferlante comme on dit, ça l'a fait chavirer. L'eau rentrée dans le bateau et il a eu le temps de m'appeler, heureusement, parce qu'il a sauvé deux gars quand même. Donc voilà. Et puis on a fait route dessus, on a fini par tomber sur eux. Il y avait des creux de 6, 7 mètres, 8 mètres. On a réussi à rien les retrouver dans l'eau. Gelé, parce que l'eau, au mois de janvier, l'eau fait 9 degrés. Au mois de janvier, 9 degrés, vous nagez pas longtemps. Hein. C'est un quart d'heure. Hein. Puis il fait noir. Hein. On a ramené 3, dont un décédé, et puis 3 qu'on n'a pas trouvé. Et quand on est arrivé, le bateau était coulé. Hein. En l'espace d'un quart d'heure. Hein. C'est pas le meilleur moment de la carrière. Aussi bien de sauveteur que de pêcheur. Et là, quand on rentre dans le port et puis qu'on ramène le mari à la veuve, on n'est pas bien. Surtout qu'on se connaît. Voilà. Faut repartir en mer, ouais. Parce qu'on est resté au moins 8 ou 10 jours dans le port. Et après, il faut y aller, quoi. L'équipage était un peu traumatisé. Hein. Faut repartir aussi.
Les survivants ? Ils sont retournés en mer ?
Non. Non. Il ne reste plus qu'un, il y en a un qui n'a pas survécu, qui s'est suicidé. Puis le deuxième, il a essayé de renaviguer, il a fait 2-3 jours, il pouvait pas travailler à terre. Tout le monde était là, tout le monde était en miettes. Hein. Bah, c'est aussi la pêche, la mer.
Je suis Quentin Fleury, j'ai 17 ans et je suis pêcheur à l'Île-Dieu.
Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici ?
Ah, c'est l'endroit où je venais avec mon grand-père quand j'étais petit. On allait à la pêche dans les coursos là, qu'on voit là en face, sur la plage.
Les coursos, ce sont les petites rivières d'eau en fait qui passent entre, entre les rochers.
Ben, en fait, il y a des coursos et puis on barrait les coursos avec des filets pour pêcher un peu de bar, sar. Puis en même temps, on pouvait pêcher des crevettes, des palourdes, tout ce qu'on voulait. Quoi. Il y a tout ici.
Votre grand-père, il était pêcheur professionnel ?
Oui, c'est ça. Il m'a tout appris. Puis après, il m'a vraiment passionné pour aller dans le métier de marin, vu qu'il adorait ça aussi. Puis il m'a passionné en même temps pour faire ça, quoi. Nous, on n'était que 3 quand on était à l'école à être motivés.
Dans votre classe, au collège ?
Souvent, c'était des fils de marins qui ont été motivés. Parce que maintenant, plus personne veut aller dans la pêche. C'est des angles trop durs, c'est dangereux.
Aujourd'hui, à quoi ressemble votre vie de jeune pêcheur, alors ? Comment vous vous organisez ?
On a 2 semaines de mer. On rentre que pour la grande marée, ce qui veut dire 2-3 jours. On repart 2 semaines. Puis c'est ça tout le temps, quoi, tout le long de l'année. À part à la sole, on reste tout le mois en mer. Bah après, oui, ça va, on gagne notre vie. Enfin, heureusement, parce qu'avec les heures qu'on passe sur le pont et le travail est assez compliqué. Enfin, après, ça dépend les marées. Il y a des marées où on pêche plus, parce que vu qu'on est payé selon le poisson qu'on pêche.
Mais ça vous est déjà arrivé de faire une sortie en pêche où vous avez quasiment rien ramené ?
Ça m'est arrivé une seule fois au requin peau bleu, on avait gagné moins 1 euro.
Puis là, pour combien de jours de travail ?
3 semaines.
Et comment se fait-il qu'il n'y avait pas de poisson ?
Ah si, il y avait beaucoup de poissons, mais quand on a vendu à la criée, il y en avait trop, du coup ils ont tout jeté à la poubelle.
Sébastien Chauvet, je suis le directeur de l'organisation professionnelle des marins pêcheurs de l'Île-Dieu.
Voilà, la criée, cette criée a été construite en, a été mise en fonction en 1995, donc on est en 2018. Donc à l'époque, je vous disais qu'il y avait 100 navires de pêche, 450 marins pêcheurs et une activité très importante qui faisait qu'à l'Île-Dieu, on était, on débarquait encore 2000 tonnes de poissons sous cette criée. Et jusqu'à l'année dernière, où on a fermé la vente, on était tombé sous la barre des 600 tonnes. Donc il a fallu arrêter l'activité de la criée. Et aujourd'hui, l'Île-Dieu est devenue une base avancée pour les flottilles. C'est-à-dire que les gens qui sont proches de l'Île-Dieu, notamment les flottilles de l'Île-Dieu, et les autres aussi, peuvent débarquer sur l'île. Et le soir, il y a un bateau qui prend le poisson, qui l'emmène au Sable d'Olonne dans la nuit. Et le poisson est vendu au Sable d'Olonne.
Ça veut dire qu'il n'y a aucune vente de poissons qui est faite dans cette criée ?
Non, plus maintenant, depuis maintenant presque 2 ans.
Voilà, donc là on arrive dans un immense préau, en fait.
Donc là, vous voyez, donc, c'est un bâtiment qui a une atmosphère sous froid. Donc le poisson est débarqué là sur le quai. Donc là c'est 0,2 degrés, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les marins viennent débarquer leurs poissons et stockent leurs poissons, vous voyez. Bon, par exemple, ça c'est le... Sous la glace, on voit... Ce sont des dorades royales. Voilà. Et ce poisson va transiter entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne et sera vendu demain matin à la criée des Sables d'Olonne. À la criée des Sables d'Olonne, il y a plus de 100 acheteurs. Aujourd'hui, le marché du poisson, c'est un marché dématérialisé où on peut être en Suisse et acheter du poisson à la criée des Sables d'Olonne et se faire expédier le poisson par transporteur. Donc le poisson de l'Île-Dieu, il va partout. Il va en France, en Espagne, en Suisse, en Italie.
Est-ce que vous avez connu, vous, ici, la criée, ou je sais pas, on s'en fait une image un peu romanesque, où chacun vend son poisson en criant, comme son nom l'indique.
Voilà, mais moi j'ai connu le crieur. Bon, il n'est pas encore à la retraite d'ailleurs, mais j'ai connu effectivement le crieur tel qu'on l'imaginait. Mais aujourd'hui, bon, il n'y a plus de crieur, il n'y a plus de vente. Mais même dans les autres criées, le poisson se vend aujourd'hui en France dans un silence de cathédrale. On regarde des écrans, on a un bouton. Le crieur ne crie plus et le mareyeur ne fait plus le geste adéquat, etc. Tout ça, c'est une image d'Épinal qui n'est plus. Allez. Ah.
Alors là, où est-ce qu'on va ?
Eh bien, on va au bar le navigateur et puis on va aller rencontrer Gaston Hennequin, qui est le poissonnier le plus célèbre de l'île.
Bonjour, tu vas bien ?
Bonjour.
Ça va, mon gars? Alors, Seb,
ça va?
Ça va? Temps,
oui.
Jours, je n'ai pas vu.
Les vacances se sont bien passées?
C'est super, ouais, Cassie.
Je suis un fils de pêcheur. Mon père était pêcheur. Puis mes grands-parents, tout le monde était pêcheur dans la famille.
Mais pas vous?
Mais pas moi. Malheureusement, j'avais mal de mer. C'est triste à dire, mais c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai jamais pu m'en débarrasser. Obligé de changer de métier.
Donc vous êtes devenu, c'est comme ça que vous êtes devenu vendeur de poissons,
oui,
commerçant,
oui, oui.
Poissonnier.
Oui, oui. J'ai connu 5 usines à l'Île-Dieu, 5 conserveries. La sardine qui était travaillée, mise en boîte, le thon l'était bien sûr. Ça faisait du boulot sur l'Île-Dieu. Les femmes le soir sur le quai attendaient les sardinières rentrer pour. Le signal était donné. Une sirène, chaque sirène avait bien son timbre différent. Comme ça, oh, c'est à nous, au boulot.
Quand et pourquoi elles ont fermé les conserveries ?
Oui, en fait, pourquoi il y avait autant d'usines à l'Île-Dieu ? C'était du temps, après-guerre, où les bateaux n'avaient pas encore le froid. Et si vous voulez, les usiniers, il fallait qu'ils se rapprochent des zones de pêche pour avoir le poisson le plus frais possible. Il y avait des flottilles entières, notamment les flottilles bretonnes, qui venaient pêcher en Vendée la sardine, le maquereau. Et comme les bateaux n'avaient pas de froid à bord, il n'y avait pas de glace, il fallait débarquer au plus proche, au plus près, et transformer ce poisson le plus vite possible. C'est pour ça que les usiniers bretons ont investi massivement en Vendée, et plus particulièrement à l'Île-Dieu, parce que l'Île-Dieu était la mieux placée par rapport aux zones de pêche. C'est ça qui a fait la force de l'île-dieu. Les cales à poissons avec le froid et la glace, hein, ça a été quelque chose, un progrès extraordinaire pour les marins. Et puis, au fil des années, au fil du temps, au fil des décennies, les industriels français ont délocalisé la production, notamment Sopiki, ont délocalisé les productions de conserves françaises de métropole vers d'autres pays. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a fermé les usines en France de conserverie de poissons, notamment les pays du Maghreb, hein, l'Algérie, le Maroc. Pourquoi il y a eu la crise en France de la pêche au début des années 90? Un jour, le poisson est monté dans l'avion. C'est-à-dire que pendant longtemps, en France, en Europe, les Français mangeaient du poisson français, les Européens mangeaient du poisson européen. Et du jour au lendemain, en quelques mois, la plus grande criée d'Europe s'est appelée l'aéroport de Madrid. Et on a vu débouler du poisson d'Amérique du Sud à pas de prix. À l'époque, on vendait le merlu 30 francs du kilo. Et du jour au lendemain, on a vu du merlu d'Amérique du Sud arriver à 15 francs du kilo. Et ça a été une révolution pour la pêche française. It's just sad to behold when you got small words to mold and you couldn't make them your own. Still love, it would be much better. Love, it would be much better, I'm told.
Bonjour Frédéric Lemanac.
Bonjour.
Vous avez accepté de nous retrouver dans ce café parisien. Vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom, fondée en 2005 par Claire Nouvian pour défendre la biodiversité marine tout en préservant les emplois durables dans la pêche et l'aquaculture. Comment réagissez-vous à ce reportage d'Alice Milot réalisé à l'île-dieu?
Et il est assez édifiant en fait, parce qu'on voit que même en France, on a des pêcheurs artisans qui disparaissent année après année. On a des économies côtières entières qui disparaissent parce que la pêche devient mondialisée. On a une pêche industrielle qui est radicalement efficace. Et donc, on a besoin de moins en moins d'humains à bord des bateaux pour pêcher le poisson qu'on consomme, puisqu'en fait, le poisson qu'on consomme ne vient plus de notre littoral français. Donc, c'est assez édifiant d'entendre ces vieux pêcheurs ou ces pêcheurs beaucoup plus jeunes qui nous racontent l'évolution de leur pêche.
Oui, parce qu'on voit que finalement, c'est toute une économie qui a disparu, de la flottille de pêche à la criée, en passant par les conserveries. C'est vraiment toute une histoire qui disparaît.
C'est une histoire, c'est un savoir-faire, c'est une culture. Donc, c'est pas simplement des pêcheurs artisans ou des pêcheurs industriels qui ne sont plus là. C'est effectivement toute la vie de régions entières qui disparaît. Des activités qui parfois ont des siècles et des siècles et qui disparaissent comme ça très très rapidement parce qu'on a une nouvelle évolution de la pêche qui fait qu'on n'a plus besoin de leurs services.
Et c'est pas un cas unique, hein, parce que comme on l'entend très bien dit dans le reportage, un jour le poisson a pris l'avion.
Oui, le poisson a pris l'avion, et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de la consommation en France, en fait, on consomme assez peu de poisson qui est pêché en France, voire même en Europe. La plupart du poisson qu'on consomme en France est importé. Et donc, ça va être, par exemple, toutes les crevettes tropicales qui vont être soit d'élevage ou soit sauvages, mais qu'on va consommer, qui représentent quand même une des principales espèces consommées en France. On consomme aussi beaucoup de saumon d'élevage qui provient du Chili ou de la Norvège, et du cabillaud qui vient aussi de l'Arctique. Donc, c'est très peu de poissons pêchés en France qui est consommé sur le marché français.
Et donc, aujourd'hui, à l'échelle de la France, l'activité de la pêche est vraiment en baisse?
Oui, et puis elle est en baisse depuis un très long moment, en fait, puisqu'on a eu vraiment une industrialisation de la pêche après-guerre, avec vraiment une volonté de l'État de transformer le secteur de la pêche. Et donc, il y a vraiment eu des investissements massifs dans le secteur de la pêche pour le rendre productif et puissant. Et en fait, ça a été le début de la fin, parce qu'en augmentant radicalement l'efficacité de pêche de nos flottes, de bateaux, on a tué l'emploi. Et en 1950, par exemple, il y avait 50 000 pêcheurs en France. Actuellement, il y en a moins de 13 000. Et c'est une tendance qui s'accentue, qui continue, qui n'est pas prête de s'inverser, parce que même maintenant, voilà, on sait que le milieu marin est mis à mal. C'est pas que de la pêche, c'est pas que de la surpêche. On a aussi la pollution qui provient de l'agriculture intensive. On a l'urbanisation de la côte en Méditerranée ou partout ailleurs. On a la mangrove qui est détruite pour faire des fermes d'aquaculture de crevettes. On a les marais qui sont asséchés pour faire des nouvelles villes. Et donc, on a quand même un milieu marin qui est de moins en moins productif. Donc, on a vraiment un nombre de marins qui diminue d'année en année, y compris en France.
C'est le résultat d'une guerre inéquitable, finalement, ce que vous décrivez entre la pêche industrielle et la pêche artisanale.
Oui, c'est une grosse partie de la problématique, parce que même si on voit que les choses vont mal, l'océan est pollué, abîmé, surpêché, on continue cette course à la pêche industrielle. Et on le voit, nous, par exemple, chez Bloom, actuellement, on est en campagne contre la pêche électrique, qui est une méthode de pêche absolument inepte. Enfin, on utilise des électrodes, un champ électrique pour aller extraire le dernier poisson du sédiment. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. En fait, on devrait vraiment avoir une politique publique de gestion de la pêche pour retourner vers de la pêche plus artisanale à échelle humaine, pour recréer de l'emploi, prendre soin de l'environnement marin. Et on ne fait pas du tout ça.
16 janvier 2018, le Parlement européen a voté en faveur d'une interdiction de la pêche électrique.
Oui, mais ce n'est pas la fin de la bataille, parce qu'en fait, une fois que le Parlement européen a pris position, il y a une discussion, une négociation entre le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne et les ministres qui sont réunis au sein du Conseil de l'Union européenne. Et tant que ces trois institutions européennes n'ont pas trouvé de position commune et qu'un règlement un nouveau règlement n'est pas acté, c'est l'ancien règlement qui s'applique. Donc là, la pêche électrique existe toujours parce que les trois institutions européennes ne se sont pas mises d'accord encore sur l'interdiction de la pêche électrique.
Donc j'imagine que l'objectif, c'est qu'elles se mettent d'accord avant les élections européennes de mai prochain, sinon il faudra tout recommencer à zéro.
Exactement, c'est un peu le risque. Si on ne gagne pas ou si on ne perd pas d'ici les élections en mai, il faudra tout recommencer de zéro avec le nouveau règlement qui sera proposé par la nouvelle Commission européenne après les élections.
Alors, cette guerre inéquitable entre pêche artisanale et pêche industrielle, elle a lieu en France, elle a lieu en Europe, mais elle a aussi lieu au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, qui font partie des plus poissonneuses du monde, parce qu'il y a ces fameux e-pooling, là, ces mouvements froids qui remontent des profondeurs des océans et qui, du coup, permettent de créer un écosystème riche avec beaucoup de biodiversité. Je crois que c'est un cinquième des captures marines qui sont pêchées dans ces eaux-là. Mais malgré tout, là aussi, il y a une véritable guerre en cours.
Il y a une guerre en cours parce qu'effectivement, ce sont des zones qui sont très productives et tout le monde le sait. Donc tout le monde y va, soit légalement au travers d'accords de pêche qui sont établis, par exemple, entre l'Union européenne et certains pays africains sur la côte ouest ou même sur la côte est, soit illégalement, parce que malheureusement, il y a quand même assez peu de moyens de surveillance et de contrôle dans ces eaux-là. C'est déjà très compliqué de surveiller dans les eaux françaises, mais au large de l'Afrique, c'est encore plus compliqué. Donc on a beaucoup aussi de navires asiatiques, russes, qui vont pêcher de manière illégale dans ces eaux-là. Et actuellement, on voit vraiment le développement aussi de la pêche qu'on appelle minotière, c'est-à-dire pour fabriquer de la farine et de l'huile pour l'aquaculture. Et ça, c'est en plein boom actuellement en Mauritanie, par exemple, au Sénégal, où on a notamment les Chinois qui investissent massivement dans les usines de transformation. Parce que tous les petits poissons comme les sardinelles qui vont être pêchés dans ces eaux-là, très productives, vont ensuite servir soit à élever des carpes en Chine, soit à élever du saumon en Norvège. Et c'est une activité qui est extrêmement lucrative.
Il y a une dizaine d'usines de farine de poissons qui se sont installées durant ces dernières années sur les côtes sénégalaises, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans le monde, on consomme plus de poissons issus de l'aquaculture que de poissons sauvages.
Oui, depuis quelques années, il y a vraiment eu un basculement. Donc là, on est plus à de la consommation principalement sauvage. On est passé à de la consommation principalement d'aquaculture. Voilà, il faut quand même savoir que quand on consomme un poisson qui a été élevé, c'est un poisson qui a été nourri aussi en grande partie avec du poisson sauvage. Donc on voit souvent l'aquaculture comme une solution à la surpêche. L'aquaculture peut en réalité contribuer à la surpêche également.
Et en plus, c'est dans des proportions assez colossales, hein, réparties dans différents endroits de la planète.
Bien sûr, les gros endroits de pêche minotière, donc pour alimenter l'aquaculture, c'est principalement l'Amérique du Sud, au large du Pérou. Vous avez plusieurs millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année là-bas. Et ça a représenté à un moment jusqu'à 10% des captures mondiales de poissons. Simplement au large du Pérou. Vous avez aussi l'Afrique de l'Ouest, qui est une grosse zone de pêche minotière. Et vous avez l'Atlantique Nord-Est, par exemple, le Danemark. Là, il y a une pêche qui a été certifiée pêche durable. Donc, on peut discuter aussi de ça, de ce que veulent dire ou non les labels de pêche durable. Mais une pêche danoise qui certifie 600 000 tonnes de poissons qui sont réduits en poudre pour l'aquaculture. 600 000 tonnes, c'est plus que le total de la pêche française chaque année.
Et à quoi sert cette farine de poisson ?
Elle part ensuite en Norvège, en Chine, pour faire de l'aquaculture, de saumon, de carpe, de bar, de crevettes, tous les poissons qu'on retrouve ensuite sur les marchés français et qui sont principalement consommés par rapport aux poissons qui sont pêchés en France.
Les volailles aussi, non ?
Les volailles un petit peu, les porcs un petit peu. Mais la part de l'aquaculture représente à peu près 70% du poisson sauvage qui est consommé par les élevages. Les 30% restants, ça va être effectivement un petit peu beaucoup les porcs, un petit peu les volailles. Et on va aussi retrouver des utilisations de poissons sauvages totalement démentes, comme par exemple pour les visons qui vont servir à faire les petites fourrures des capuches ou des bonnets, ou alors même pour faire des huiles pour moteurs ou de l'engrais.
Les huiles pour moteurs, on peut rouler au poisson ?
On peut rouler au poisson. Il y a certains poissons qui sont très prisés pour faire des huiles pour moteurs de luxe. Donc, est-ce que c'est la meilleure utilisation qu'on puisse faire d'un poisson sauvage ? Je ne suis pas sûr, mais c'est une utilisation qui existe.
On laissera l'auditeur juger. Cette guerre entre pêche industrielle et pêche artisanale, c'est l'une de vos campagnes en ce moment. Elle a lieu aussi grâce à nos impôts, finalement, à l'argent que nous payons, nous, citoyens, et on n'en a absolument pas conscience.
Et bien sûr, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. L'utilisation d'argent public au service de la destruction de l'environnement et de l'emploi, c'est quelque chose qui est malheureux, mais qui existe dans le secteur de la pêche. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres choses. On a tous les ans des rapports qui sortent sur l'utilisation de l'argent qu'on met sur nos comptes en banque qui vont financer l'extraction de charbon ou l'extraction pétrolière. Dans le secteur de la pêche, c'est exactement la même chose. On a l'argent de nos impôts, pas forcément les impôts sur le revenu, hein, ça peut aussi être la TVA ou d'autres types de taxes, qui va servir à financer des méthodes de pêche destructrices, qui va servir à financer la pêche illégale, qui va servir à financer toute cette destruction d'emplois et de ressources dont on parlait tout à l'heure.
Mais par quel mécanisme financer la pêche illégale, par exemple ?
Par le mécanisme des puissants, en fait. C'est comme pour l'agriculture, on a les gros élevages industriels qui vont récupérer les subventions. Sur la pêche, c'est exactement la même chose. On a un petit pêcheur artisan qui est en mer pour vivre et qui doit être en mer pour avoir un salaire. Il n'a pas du tout le temps de faire un dossier européen pour récupérer une partie du fonds structurel européen à la pêche. Et donc, il n'a pas de subvention, il en a très peu. Alors qu'un armement industriel, lui, il a des juristes, il a des relais politiques, et donc pour lui, c'est très facile d'obtenir des sommes astronomiques. Donc on a exactement le même mécanisme que pour l'agriculture ou l'élevage. On a les gros industriels de la pêche, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui récupèrent la majorité des financements. Et donc ensuite, il y a un maquillage qui est fait. On a des beaux objectifs de développement durable, de pêche durable, que ce soit en Europe ou au niveau des Nations Unies ou au sommet de la Terre. On affiche quelque chose. Et en fait, ce qu'on fait derrière, c'est exactement l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on vit, nous, jour après jour, chez Blumen.
C'est-à-dire les acteurs qui finalement sont en train de tuer la biodiversité marine touchent des subventions qui viennent de notre argent
bien
à nos
sûr.
Citoyens.
Je peux reprendre l'exemple de la pêche électrique. En novembre 2018, on a montré que 21,8 millions d'euros d'argent public européen, donc aussi les impôts des Français, avaient été utilisés pour développer la pêche électrique. Et tout ça, toute cette utilisation d'argent public est contre les règlements européens. C'est en infraction totale avec les règlements européens, parce que l'argent public européen dans le secteur de la pêche ne peut pas servir à augmenter l'effort de pêche. Et la pêche électrique, c'est exactement ça que ça fait. Et en plus, une grande partie des dérogations de pêche électrique sont illégales, sont au-delà du cadre légal. Et donc, on a financé une méthode de pêche qu'on n'aurait pas dû financer, et on a financé une méthode de pêche qui existe dans des proportions qui sont illégales. Et malgré ça, les Néerlandais appellent la pêche électrique innovante. Ils disent que ça permet de remplir les objectifs de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est tellement efficace.
Comme on pêche plus vite, on consomme moins d'essence.
Exactement. Et donc, on a un glissement sémantique du secteur de la pêche, où on va appeler les nouvelles technologies innovantes, respectueuses, durables, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse.
C'est le résultat de ce qu'on appelle le lobbying dans les couloirs des décisions européennes.
Exactement. Et il y a un chiffre qui est extrêmement frappant, c'est qu'à la Commission européenne, vous avez 30 000 employés et vous avez 30 000 lobbyistes. Et donc, c'est effectivement un combat qui est extrêmement difficile. C'est David contre Goliath, parce que vous avez des lobbyistes qui sont présents jour après jour à Bruxelles, dans les institutions, pour obtenir des nouveaux fonds européens, pour obtenir des autorisations sur tel ou tel engin de pêche. Et derrière, il faut se battre avec des armes qui sont autrement plus faibles que les leurs.
Si on prend un peu de hauteur, c'est une véritable tragédie humaine et environnementale qui est en cours.
Oui, c'est une tragédie humaine et environnementale parce que, bon, d'une part, sur l'environnement, on va En fait, tant qu'il y aura de l'argent à faire sur les espèces vivantes, on en fera. Donc c'est très difficile de lutter contre cette avidité de l'industrie. C'est vrai pour la pêche, mais c'est vrai aussi pour le bois précieux, pour les minerais, pour tout. Et c'est aussi une tragédie humaine, puisque quand on va surexploiter les ressources au large de l'Afrique, on va aussi créer des tensions sociales, des tensions politiques, on va déstabiliser des économies entières. Et ça, c'est quelque chose qui potentiellement se retourne aussi contre nous. Beaucoup de migrations en Afrique sont causées par la surexploitation de leurs ressources terrestres ou maritimes. Donc on est en finançant ces méthodes de pêche destructrices, on finance aussi l'injustice au niveau mondial.
Alors qu'est-ce que vous proposez chez Bloom ?
Alors nous, on propose plusieurs choses. Alors déjà, on ne fait rien tout seul. Tout est fait grâce à l'aide du citoyen qui nous permet vraiment d'avoir un pouvoir politique. Mais nous, notre combat, en fait, il est organisé autour de plusieurs axes. Un des plus gros axes, c'est déjà de lutter contre les méthodes de pêche destructrices. Pour nous, c'est absolument crucial d'arrêter de détruire l'environnement pour aller pêcher du poisson. Donc ça, on a gagné un combat contre la pêche profonde. On est en train, on espère, de gagner un combat contre la pêche électrique. Ça, c'est vraiment le premier axe de Bloom, de lutter contre les méthodes de pêche destructrices. Et ensuite, on a un gros combat qui est vraiment transversal, qui est moins visible, moins sexy, si je puis dire, qui est vraiment sur la transparence, notamment au niveau de l'utilisation des subventions de l'argent public dans le secteur de la pêche, puisque pour nous, tant qu'on n'aura pas de transparence dans le secteur, on ne pourra pas faire émerger d'options de pêche durable. Et donc on se bat jour après jour, par exemple avec l'administration française, pour obtenir les données de subventions publiques. Parce qu'une fois qu'on saura qui a récupéré l'argent public et pour en faire quoi, on saura si ça a été bien utilisé ou non. Et donc on pourra dire, ça c'était mal utilisé, il faudrait réfléchir vers une vraie transition, vers des méthodes de pêche durables, douces, pour recréer le tissu social et économique dont on parlait tout à l'heure, le long des côtes. Et en fait, en opérant cette transition vers des méthodes de pêche plus vertueuses, on crée de l'emploi, on préserve la ressource. Et donc, c'est vraiment une situation qui bénéficie à tout le monde.
Alors, il faudrait une coalition mondiale d'associations comme la vôtre pour être à la hauteur des acteurs qui sont en face.
Et oui, et le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir une coalition de ce type-là. Donc, on se bat sur nos sujets. Hein, mais même quand on gagne un combat, en fait, on sait très bien que derrière, les industriels vont tout faire pour détricoter. Donc, un combat, il est toujours temporaire. Et il faut aussi garder ça à l'esprit. Donc, c'est difficile de continuer de se battre, mais en même temps, on n'a pas d'autre choix. On sait qu'il faut se battre, donc on le fait. Et on arrive quand même à avoir des belles victoires. Donc, il y a quand même beaucoup de côtés positifs. Mais c'est vrai que le jour où les ONG, la société civile, sera aussi organisée que les lobbies industriels, là, on pourra commencer à rigoler.
Merci beaucoup, Frédéric Lemanac, d'avoir accepté de nous retrouver dans ce café parisien pour commenter ce reportage réalisé par Alice Minot à l'Île-Dieu. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. Ce dimanche,